C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Ça a été confirmé hier. Laurent Duvernay-Tardif qui reprend ce matin le chemin de la NFL. Ben il retourne avec l'équipe qui a laissé l'hiver dernier les Jets de New York. Et on en jase avec son agent et ami Sacha Gavamy. Salut Sacha!
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Hey, toi, t'es non seulement dans le secret des dieux, t'en fais partie. Ça fait combien de temps que vous planifiez ça, messieurs?
Je vous dirais que les Jets et nous, les Jets ont montré de l'intérêt en Laurent au printemps dernier. Laurent ne pouvait pas se joindre à une équipe à ce moment-là puisqu'il devait commencer sa résidence en médecine. Mais depuis le mois de septembre, plusieurs équipes ont été en communication avec moi pour ses services. Nous, on visait toujours début mi-novembre. Et les Jets, je vous dirais peut-être qu'il y a 3-4 semaines, ils ont eu des blessures à la ligne offensive. Il y avait un intérêt mutuel. Comme on visait à la mi-novembre de joindre, on devait attendre encore un peu. Mm. Puis entre-temps, ben Laurent, un de ses critères, c'était que l'équipe avec qui elle allait joindre avait des chances de jouer du football significatif en décembre-janvier au niveau de lutter pour une place en série ou du moins, si possible, faire les séries.
Puis les Jets sont là cette année, là.
Ben c'est ça, exactement. Les Jets sont là, puis c'est un système en plus qu'il connaît. Il connaît les entraîneurs, connaît les joueurs, oui. Connaît le livre de jeu, fait que c'est plus facile à intégrer.
Mais Sacha, attends une seconde, là. Moi, quand j'ai vu la nouvelle sortir hier, je trouvais ça extraordinaire. Mais je me suis demandé à quel point Laurent avait réussi non seulement à faire une partie de sa résidence en médecine, mais à rester assez en forme pour les standards de la NFL. Ouais, c'est juste pas juste, là.
Ouais, ben il a commencé sa résidence. Il a fait une partie. Il l'a pas fini, évidemment. C'est une résidence qui prend 2 ans.
Ouais.
La faculté de médecine avait permis que Laurent puisse rejoindre une équipe de foot s'il voulait, slash pouvait, puis reprendre après la saison. Mais au niveau de la forme physique, Laurent est chanceux chez eux. Il s'est aménagé un gym sur son balcon. Il a pu faire des petites choses comme aller à l'hôpital en vélo, rester en forme. Puis dans les dernières semaines, alors qu'on savait qu'il y avait des meilleures chances que ça se concrétise, avec son entraîneur, Olivier Bourgeois, il a pu vraiment ramp up le
l'anglicisme,
le training.
Wow! Ouais. Écoute, un gym sur le balcon, faut juste pas que t'échappes les poids. Laurent va commencer par être sur l'équipe de réserve, mais penses-tu qu'il pourrait être utilisé dans les matchs plus vite que tard?
C'est une bonne question. T'sais, une chose que j'ai apprise avec le temps dans ce métier-là, c'est jamais la NFL ne fait jamais de promesses puis ne te fait jamais d'attente. Okay. Je pense que Laurent, il est capable de montrer qu'il a sa place, mais en même temps, c'est une équipe qui va bien. Donc, faut pas arriver en cavalier en pensant que je suis arrivé puis je vais tout changer. Non, les coachs vont gérer ton intégration. Tu fais ton possible pour être prêt puis aider l'équipe le mieux que tu peux. Mais Laurent, il est là pour avoir du fun puis aider son équipe, peu importe le rôle qu'on lui donne.
Ben, ouais. Écoute, il a gagné le Super Bowl avec les Chiefs. Il est premier joueur diplômé en médecine. Il a été le premier joueur à se retirer de la NFL pour prêter main forte contre la COVID. On a l'impression qu'il avait tout accompli, mais s'il est de retour, ça veut dire que lui, il trouvait qu'il y avait plus à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire encore, Laurent?
Le plaisir de jouer au foot.
C'est pas
donné une mission de performance quelconque. Oui, c'est sûr qu'il aimerait ça jouer, tout comme tout joueur, mais il y a du fun. T'sais, j'y parle dans les derniers jours. Je le vois pas, mais je l'entends au téléphone. Il y a le gros sourire. C'est avec une équipe de foot. Il veut juste avoir du plaisir avec le sport qu'il adore. C'est tout simple que ça.
Donc, Sacha, agent de Laurent Duvernay-Tardif, on va le redire. Dans les prochaines semaines, si tu veux voir ton buddy, ton ami, il va falloir que tu ailles du côté de New York. C'est pas pire quand même comme vie, ça.
C'est pas désagréable.
Ouais, c'est toujours un peu décevant parce que les gens ils pensent que c'est dans Manhattan, mais t'arrives au New Jersey, c'est un peu
différent. Oh, t'es tellement à plaindre.
Sacha, j'ai une curiosité physique. Le fait que Laurent ait pris un break, est-ce que ça lui a permis de régler aussi peut-être des petits bobos que beaucoup d'athlètes ont, puis que là il va revenir vraiment dans une forme impeccable?
Ben, c'est une bonne question parce que l'année passée quand il est revenu après son année qui a pris à l'extérieur pour la COVID.
Ouais.
Il m'avait dit qu'il s'était jamais senti aussi bien. Un an sans football, ça fait du bien sur le corps.
Mais c'est
donc,
sûr.
En ce moment, c'est sûr que physiquement, il se sent très bien. Il m'a dit que son entraînement de mardi, écoute, il s'est surpris lui-même à quel point il bougeait bien et qu'il était fluide. L'entraînement a duré beaucoup moins de temps que prévu parce que les entraîneurs avaient vu assez de ce qu'ils devaient voir. Ils disaient, OK, t'es prêt.
Ça, c'est l'entraînement devant les gens des Jets. Hey, Sacha, merci infiniment d'avoir pris du temps. Toi, tu vas le voir aujourd'hui, pas nous. Tu lui dis salut de notre part puis qu'on est des fans un peu groupés, là.
Ben oui, parfait. J'en beurrais fait.
Merci. Hey, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous, Sacha. Salut.
Merci. Bye-bye.
Sacha Gavamy, qui est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, qui va s'adresser directement aux médias, Laurent, aujourd'hui.
C'est c'est cool d'y avoir parlé.
Mais c'est ouais. vraiment toujours spécial.
T'es comique? De retour après ceci. Debout
les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Le cinéma québécois a de la misère à battre le cinéma américain, puis je pense que j'ai trouvé pourquoi.
Ah oui, hein?
Dame, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe ici, est pas impressionnant.
Ben.
Ah. Non, non. Cette semaine, on a trouvé enfin un espion sur notre territoire. Au State, il aurait volé les codes nucléaires, menacé la planète. Ici, c'est un espion chinois qui travaillait chez Hydro-Québec. Tout ce qu'il a pu apprendre, c'est comment faire attendre les clients 7 heures au téléphone. C'est vrai.
Le plus ça grand... fait pas un film fanfare.
C'est ça. Le plus grand criminel des dernières années au Québec, il a vendu nos nips de Desjardins contre des cartes cadeaux chez Boston Pizza. On est loin de Dr. No, là. Cette semaine, on a reçu une alerte sur nos téléphones. Aux États, ça veut dire qu'il y a une tornade, un avion détourné. Nous, c'était un test. On est vraiment poche. Sérieusement, on est poche. Les Américains ont des criminels comme Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Al Capone. Ça fait des bons films. Nous, c'est Mario Lirette qui s'en va en dedans. Non, mais c'est vrai. Wow. Les week-ends à Mario riment maintenant avec Bordeaux, mais pas le vin. Wow. Aux États-Unis, ils ont Tom Brady, vedette de football, qui se sépare d'une mannequin, qui l'échappe à deux mains, puis qui est impliqué dans une compagnie de crypto-monnaie, qui fait faillite. Hey, moi, je me gave de popcorn devant le film de sa vie, là, tu sais.
Ben ouais.
Nous, on a Laurent Duvernay-Tardif. Il fait des tardifs. Je sais jamais comment le dire, je viens de Québec. Laurent Duvernay-Tardif, il fait des bols à salade. Puis quand il fait le fou, c'est qu'il cuisine une focaccia au bacon dans la boulangerie de ses parents. Voyons, ça joue dans NFL, puis c'est moins cocky que Sébastien Delorme. Aux États, même leurs femmes d'affaires sont plus cinématographiques.
Ah ouais.
Martha Stewart a fait des millions, puis elle se retrouve en prison pour fraude. C'est gros. Nous, on a Caroline Néron qui vend des bijoux. Elle se plante, fait qu'elle se lance dans les vibrateurs. Elle est pas criminelle, elle est juste en manque, Caroline. Pour les gros films d'été, ils ont des attaques de requins. Nous autres, les baleines viennent crever dans le port.
Vu de même, c'est vrai que c'est pas fort.
Non, ils ont Jaws, eux autres. Nous autres, on a la grenouille et la baleine. Non, mais j'avoue que je
meurt les deux premières minutes contre le film, là.
C'est des très bons points.
Je suis percutante, oui, hein?
C'est des très bons points.
Même nos films catastrophes sont poches. Aux États-Unis, ils ont des catastrophes naturelles de fous. Nous autres, on a eu un tremblement de terre de 3,7. À part une douzaine de chiens qui ont jappé à Terrebonne, il n'y a pas de quoi écrire un scénario. Fait que, conclusion de tout ça, va falloir s'avouer vaincu. Puis aller se claquer les Boys 8 bientôt. Parce qu'ici, là où ça brasse, c'est dans les ligues de garage, surtout avec les pénuries d'arbitres.
Oui, mais ça...
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques! 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Moi, je vais vous parler de quelque chose ce matin. On parle de Québec. Je vais aller un peu ailleurs dans le monde. Ça se passe à Medellín. C'est un gars qui...
Medellín, ça, c'est en Colombie, ça.
Oui, Medellín, en Colombie.
Medellín, Medellín, je sais
pas. Ben, il prononce Medellín là-bas. Okay. C'est Medellín. Il prononce un peu comme les Espagnols, en fait, comme les Portugais, il fait les JJ au lieu des IEI.
OK.
Et là-bas, c'est une... c'est rough en Colombie. Le gars est allé sur une date Tinder. Il arrive là-bas et... il pensait avoir du plaisir avec la madame et tout ça et tout ça. Et finalement, il s'en va dans un quartier hip. Il revient pas dans son Airbnb. Sa famille s'inquiète parce qu'il avait posté des photos sur Instagram où il avait l'air de faire le party.
Okay.
Et finalement, il alerte les autorités. Ils font des recherches et ils ont retrouvé son corps.
Le gars
est mort. Ils ont retrouvé son corps à 8 kilomètres de là. Et son corps a été retrouvé. Ça a l'air que ça serait arrivé quelques instants après qu'il ait transféré 500$ via PayPal à la fille qu'il a rencontrée. Fait que c'est un espèce de racket organisé.
Oh.
Et c'est le genre de choses qui arrivent souvent dans ces pays-là, surtout la Colombie. Tu sais, je veux parler aux auditeurs, auditrices qui...
Toi, tu étais allé en Colombie dans le cadre d'un tournage, c'est ça?
Oui, j'étais là pour Skate le Monde en Colombie. Puis c'est rough. C'est un des pays les plus rough que j'ai vu de ma vie. On est allé à Medellín, on est allé aussi à Bogota. Bogota, la capitale, écoute, c'était... ma blonde sortait de l'hôtel, fallait qu'elle soit escortée par des gens de l'hôtel, même juste pour aller à 10-15 pieds plus loin que l'enceinte de l'hôtel, tu sais.
Mais voyons.
Oui, parce que...
Sur le trottoir en avant de l'hôtel.
Sur le trottoir, ça joue rough. Les chars là-bas, tous les chars, en fait, la plupart des chars qu'on a vus se vendaient en version normale et en version blindée. Fait que, mettons, tu vas acheter un 4Runner, tu peux acheter ton 4Runner normal ou blindé avec les vitres par balles, avec les pneus qui se regonflent, mettons, que tu te fais tirer dessus.
Attends, Matt, là, moi, on dirait que dans les... Mais là, avant, mettons, pré-pandémie, là, les deux, trois années avant la pandémie, il y avait vraiment beaucoup de gens qui allaient en Colombie.
Qui allaient là, en Colombie.
C'était une destination qui était de plus en plus populaire. Même moi, j'avais songé y aller. Fait que tu dis que c'était pas si paradisiaque.
Si tu y vas dans le cadre de vacances, c'est comme là, je prends l'exemple du gars qui est allé dater la fille là-bas. Il est allé dans un quartier hip de Medellín où est-ce qu'il y avait des cafés, des bars, tout ça. Et t'es pas dans une espèce, comment je peux dire ça, dans
t'es pas
clos,
dans un resort.
T'es pas dans un resort où est-ce que t'as plein de touristes, tout ça. Si tu vas dans un resort, il n'y a aucun problème. Si tu vas dans une ville très touristique où est-ce que c'est 90% de touristes, ça va bien. Mais nous, on était avec des skaters, des gars qui étaient dans des gangs de rue pis tout ça, et on a une chance qu'on était avec eux autres. T'arrives dans un parc, là-bas.
Ils connaissent les codes, eux autres, pis
Ben oui, pis tous les mondes, là, ils se font des poignées de main avec 18 codes qui durent 15 minutes. Et là-bas, quand t'arrives dans un parc, t'as des gardiens armés. Fait que, mettons, t'arrives au parc La Fontaine, version Bogota, t'as des gardiens armés avec des mitraillettes. Puis là, t'as la petite famille qui arrive là avec sa poussette, tout ça. T'as des barbelés en haut des grandes clôtures. Et tous les parcs sont clôturés avec des barbelés. C'est assez peurant de voir ça. Nous autres, on filmait justement, on se promenait en skate, puis il y avait le caméraman qui me suivait avec un gimbal, qu'on appelle ça, comme une espèce de truc de caméra qui vaut quand même 10 000 piastres. Et là, il nous disait « Don't go there », puis il nous arrêtait juste avant un coin de rue. « They're gonna chop your arm and take your camera », blablabla. Fait que on était comme « OK, on revirait de bord », puis on allait dans des quartiers qui étaient moins rough. Et autre point sur Medellín...
Justice Coturmel écrit « Mon cousin reste en Colombie, son appart est blindé ».
Ben, c'est ça, son appart est blindé. Et c'est de voir ces clashs-là aussi qui sont assez spéciaux. Bogota, très, très pauvre. Medellín, beaucoup plus riche que Bogota. C'est une petite ville dans les montagnes.
C'est le château fort de Pablo Escobar dans le temps. Les cartels là-bas sont encore la même mise sur la population, sur le gouvernement, sur l'armée même, souvent. Oui. Fait qu'il y a ces tensions-là toujours. Fait que la pauvreté extrême côtoie la richesse débridée, probablement.
C'est complètement fou.
Mais quand tu penses qu'un concessionnaire vend la version blindée de chaque véhicule qu'il y a, c'est une autre culture, mettons. Tu comprends qu'on est loin de ça ici, là.
Mais je dis, mettons, Mexico City, c'est très dangereux aussi. Ouais. Mais il y a plein de quartiers où toi, en tant que touriste, tu peux y aller. Puis le quartier complet, il n'y a aucun stress.
Mais c'est parce que c'est aussi la façon que c'est fait. C'est très, très, très grand, Bogota. Tu montes au sommet de la montagne, tu vois la ville s'étendue sur des centaines de kilomètres, puis j'exagère pas. Fait que il y a un centre-ville, mais t'as plusieurs places où est-ce que les buildings sont beaucoup plus bas. Fait que t'as plein de raccoins là-dedans. Et on est allé dans des favelas.
Comme des villes, quasiment, favelas.
Exactement. On est allé là-dedans, puis c'est complètement cinglé de voir dans quoi les gens vivent. Fait que t'as les motons avec 152 fils électriques, le monde qui passe en scooter là-dedans. Puis tu te tiens quand t'es en scooter, justement, parce que tu peux être en arrière de quelqu'un qui te donne un livre jusqu'en haut de la montagne sur le scooter. Faut que tu tiennes tes affaires serrées parce que t'en as d'autres qui passent puis qui vont t'arracher ça direct du corps. Puis, dernier point que je veux parler, c'est encore par rapport à la Colombie, mais c'est un peu off par rapport à la violence, mais c'est aussi à Medellín, c'est une des capitales mondiales de la chirurgie plastique. Et t'as 12 salons d'esthétisme par personne là-bas. Fait que c'est assez renversant de voir ça, la criminalité qui côtoie ça. Et ça donne des espèces de choses weird comme sur un coin de rue, sur un poteau de téléphone, t'avais une pancarte écrit butt lift, Brazilian butt lift, avec des numéros de téléphone en dessous. Tu sais, comme un chat perdu que tu peux prendre le numéro de téléphone sur un petit papier sur un coin de rue. Là. Je trusterais pas ce chirurgien-là.
Mais non, ça en Amérique du Sud, là, mettons au Brésil, il y en a vraiment beaucoup aussi. Là.
Ah ouais, mais toi, tu dis ça avec de l'appétit.
Ouais, c'est parce que moi, je trouve ça capoté que tu puisses aller à l'autre bout du monde te faire une chirurgie non supervisée. Ouais. On insère quelque chose dans ton corps, c'est pas une joke, là.
Mm-hmm. Non, c'est ça.
Après ça, ils reviennent ici puis ils se demandent pourquoi leurs fesses sont tout croches.
Merci, mon cher Mathieu. Mathieu, ça fait réagir sur la messagerie texte. 6h10, dans 10 minutes, tu vas revenir à la charge avec ton sketch du jour, mon cher Mathieu. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce matin?
Je tiens juste à dire, Pablo Gomez a dit, ce gars-là a juste visité le pays. T'as raison, Pablo, il y a des beaux quartiers dans Bogota. J'ai trippé dans d'autres quartiers, mais je fais pas démoniser la Colombie, je fais juste dire qu'il y a des places qui sont rough.
Le podcast Debout les comiques.
On se parle de pénurie d'arbitres au hockey. C'est le Centre du Québec, entre autres, qui est en pénurie d'arbitres. C'est un article de TVA Nouvelles qui nous happe ce matin. Je le sais, c'est un sujet qu'on a abordé assez régulièrement, mais là, on dirait que c'est pire que jamais. J'ai vu passer sur mon Facebook de manière tout à fait personnelle une maman qui écrit que le match de son fils au hockey, genre
Pee-wee, est annulé
parce que Il n'y en a pas d'arbitre. On est dans le coin de Mirabel pour cette partie-là. Et sinon, ben le centre du Québec, eux autres aussi, entre autres, en fin de semaine dernière, à Drummondville, il y a des parties qui ont dû être annulées faute d'officiels. Victoriaville, même chose, une douzaine d'arbitres au début de la saison. Il y en a un là qui a dû participer à 12 matchs la fin de semaine. Quand t'arbitres au hockey, je l'ai fait, moi.
12 matchs?
12 matchs dans ta fin de semaine, ça veut dire, mettons, t'en fais 6 samedi, 6 dimanche. Moi, j'en faisais 3 par jour, mettons, là, puis j'en avais assez.
Ben,
puis tu repartais le match d'après avec tes patins 30 parce que tu viens avoir chaud dans la première game, même si c'est du novice. Toi, tu patines puis tu t'actives. Là, tu vas dans la chambre un peu, tu repars après ça parce que les games sont collés. Hey, pour vrai, il doit avoir un inconfort inouï. Tu changes de patin entre chaque. Mais donc, c'est une pénurie. Ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes, Hockey Québec, en incitant, entre autres, Kings et Falls. Il y a des joueurs étudiants, les Cascades Élites, Canimex. C'est un programme de sport-études. Eux autres, là, dans le sport-études, ils ont dit, là, les jeunes, vous allez devenir des arbitres pour donner un coup de main. Donc, il y a 72 joueurs étudiants de ce programme-là qui ont décidé donc de mettre leur patin d'arbitre pour essayer de faire vivre les ligues de hockey pour que le sport survive.
C'est intéressant quand même parce que tu vois le jeu d'un autre angle.
Absolument.
Il me semble que ça doit t'enrichir aussi comme hockeyeur.
Ben, Tammy, je suis en même place que toi, mais moi je vois venir le problème gros comme le bras quand même.
C'est quoi?
Ben, c'est les cristis de parents des estrades qui vont tomber dans la face d'un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans sur la place. C'est pour ça que plein arrêtent et qu'ils ne veulent plus y aller non plus.
C'est sûr.
Parce que ce qu'ils disent là-dedans, c'est pas une mauvaise job étudiante. Pour un jeune d'aller arbitrer des games, puis c'est pas une énorme paye, mais quand même, tu as une petite paye comme ça, je pense que c'est le chemin, mais on n'aura pas le choix, les parents, de se la fermer.
Mais oui.
On n'aura pas le choix d'être des spectateurs muets, à part pour encourager nos équipes, mais pour vrai, il va falloir qu'on soit supra-disciplinés, parce que les jeunes pourront plus pratiquer de sport, parce qu'on va écœurer ces jeunes-là qui vont commencer à toucher à l'arbitrage, puis même au contraire, hein, ça se fait applaudir le travail des arbitres à la fin d'un match quand t'es dans du sport jeune.
C'est un dans une fin de semaine. Je pense que les jeunes, tu sais, tu viens de compter une réalité que je savais pas, qu'un arbitre peut faire autant de games.
Ah oui, absolument.
Et de repartir avec ses patins et tout ça. Fait que ça se peut des fois qu'il fasse une décision un peu off, mais c'est pas. C'est une erreur humaine.
Ben oui.
Puis c'est pas prémédité. Puis il n'y a personne dans les qui va chier les amygdales de Shawinigan, je sais pas quelle est l'équipe.
Puis on voit pas tout, Mathieu, puis on apprend, on est tout en train d'essayer de se construire, les cataractes plus que les amygdales, mais ceci dit, mais peut-être que c'est la réalité que vous vivez. Est-ce que vous le vivez dans votre ligue, la ligue de vos enfants, ce manque d'arbitres là pour vrai? Est-ce que vous le on est curieux de vous entendre
ce matin. Ça réagit beaucoup sur la message texte, appelez-nous là,
textez-nous sur le 96.9, vous le faites déjà, et le téléphone 790 c'est quoi? 790 2564.
Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui dit, c'est possible d'avoir une petite description de comment devenir arbitre. Hey. Genre, est-ce qu'il y a un cours qui existe ou quelque chose? Il dit, moi, j'ai joué 15 ans dans les ligues mineures et ça m'intéresserait de renfiler mes patins. Alors, cette personne-là n'a pas écrit son nom. Quand vous nous écrivez, écrivez dans votre nom.
Je vais te le dire, le chemin.
Deuxièmement, je l'ai, le chemin.
Absolument. Tu vas à l'association de hockey de ton coin, puis ils vont t'enligner avec un grand plaisir à part de ça.
J'ai une réponse encore plus facile, Martin.
Plus précise que ça.
Je la donne après.
Le podcast Debout les comiques.
On parle d'arbitrage, on parle de hockey ce matin, mais c'est vrai dans tous les sports. Mon fils joue au basket, il est là-dedans, lui aussi. Il y a des problèmes de trouver des arbitres. Des fois, c'est des assistants coach qui se prêtent. On s'entend que c'est pas payant à arbitrer, là. On le sait, quand on commence à arbitrer, on s'en va pas là pour se mettre riche du tout. Tu le fais pour aider, pour donner un coup de main, d'abord et avant tout. Si tu veux travailler au noir, il y a d'autres réalités qui existent, pour vrai. Je trouve cet argument-là, je comprends que ça embarque sur ton impôt, mais si tu vas pas là pour aider, pour vrai, reste chez vous, là, sérieusement. Oui. Moi, c'est mon feeling, mais c'est peut-être qu'il y aurait des aménagements avec l'impôt à faire, je le sais pas, là, ça. C'est pas là le problème, c'est il manque de monde aussi, parce que le monde se font écœurer, là. Moi, il y a un jeune de 29 ans, de 26 à 29 ans qui a arbitré, et je faisais 300 games par année, et il dit, écoute, j'ai arrêté à un moment donné parce que j'étais écœuré de me faire tomber dans la face, puis c'était pas payant non plus au final.
En plus.
Mais les parents, puis me faire donner de la marde. Pour vrai, là, je me suis vraiment tanné. Il y a Marco qui est en ligne et qui le vit, le manque d'arbitre. Salut, Marco.
Bonjour, ça va bien?
Ben, ça va bien, toi,
tu
Marco?
Tu vis comment, toi, le manque d'arbitre?
Ben, nous autres, ça ne pas assez. Mon garçon, il joue dans le Atome WLS pour les 9 ans, 10 ans. Puis, on joue contre Ville-Saint-Laurent. Puis, on avait seulement un juge de ligne sur la glace. Habituellement, ce sont 3 arbitres.
Oui.
Puis le petit gars, ben il a quand même fallait qu'il fasse les mises au jeu, qu'il aille chercher la rondelle, qu'il s'occupe des hors-jeux, qu'il donne les punitions. Il était tout seul, il a fait toute la game quand même. C'est pas un arbitre, c'est un juge de ligne. Chapeau pour ce petit gars-là, ça a super bien été, mais on était chanceux qu'il ait voulu arbitrer quand même seul.
Mais Marco, tu l'as vu, donc est-ce que vous y avez donné, entre guillemets, une chance à ce jeune-là? Les parents se sont-ils calmés dans les estrades? Puis tu comprends-tu ce que je veux dire? On est tous plus conciliants, même les joueurs, on se parle le moment donné pour que la game existe, là.
Ben exactement, c'est ça, tu sais, il collait pas toutes les hors-jeux parce qu'il peut pas voir tout seul. Les punitions, la même chose, mais oui, les parents ils ont été super, puis nous, on est chanceux, on a une belle gang de parents.
Ouais.
De
personnes qui c'est fun, ouais. Mais Colin, un juge de ligne, c'est pas l'arbitre en chef qui, lui, est habilité à donner punition plus. Merci, Marco, de ton appel, c'est apprécié.
Hey, merci, bonne journée.
Merci.
Il y a Yann Abercon qui nous écrit, il dit, moi, j'arbitre au hockey, autant junior qu'adulte, les coachs critiquent beaucoup aussi notre travail. Ouais, on parle des parents, là, mais les coachs aussi.
Isabelle est en ligne. Salut, Isabelle.
Bonjour.
Isabelle, toi, ton cousin, c'est Justin Saint-Pierre qui est arbitre dans la Ligue nationale de hockey et qui a sa propre école pour devenir arbitre.
Ah, c'est parfait, ça.
Oui, exactement.
Et c'est où, cette école-là?
Ça se trouve être à Albanel, Dolbeau.
OK, au Lac Saint-Jean.
Au Lac Saint-Jean. Ça s'appelle l'école d'arbitrage Justin Saint-Pierre, justement.
Et toi, là, tu es proche de cette école-là. Tu dis que tu as vu une diminution des inscriptions ces dernières années, c'est ça?
Oui, bien, surtout, c'est plus lui qui en parlait, là, que oui, ça a beaucoup diminué, justement, parce que les gens, ils se font attaquer, tu sais, injurier, puis ça leur donne pas le goût, mettons.
Oui, absolument, c'est Isabelle, on comprend. Merci de ta plug ce matin, parce qu'il y a des écoles d'arbitres qui existent, mais il y a une autre façon de le devenir arbitre,
mais
Valérie.
Mais tu disais, Martin, d'aller parler avec les associations, avec les regroupements de votre région, puis effectivement, tu peux faire ça directement. Mais sur la page hockey.qc.ca, qui est la page du réseau Hockey Québec, vous allez voir, il y a un onglet, là, c'est écrit « Initiation à l'arbitrage ». Déjà là, tu as une petite vidéo qui t'explique comment faire, mais surtout, on te donne un lien courriel pour écrire à quelqu'un. Puis cette personne-là est le coordonnateur du programme d'initiation à l'arbitrage. Okay. Et il paraît que cette personne-là peut ensuite vous coordonner à savoir qu'est-ce que vous voulez avoir. Est-ce qu'il y a une petite formation que vous pouvez faire qui est rapide, concise, puis qui vous permettrait de vous impliquer dans votre réseau local?
Il y a des formations de base pour aller chercher des grades, là, comme dans n'importe quel. Les moniteurs ont à en faire, puis les arbitres aussi.
Comme ça, dans quelle langue tu veux te faire insulter.
Ouais. 7h10, ne manquez pas Mathieu Cyr qui est allé d'un pot-pourri de chansons qui règle quand même certains problèmes dans notre société, ou pas. On s'amuse avec ça dans un instant.
Le podcast Debout les comiques.
Hello, 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 hello. Salut party people. Salut à tous ceux et celles qui s'en vont bientôt en Floride. Salut à tous ceux et celles qui se disent, ouais, je pense plus le temps de mettre des running.
Ouais. On est quelques-uns.
Ouais, quelques-uns. T'arrives au bureau, tu te rends compte que t'as des orteils de schtroumpf. Ça va pas bien. Ceux qui le savent, le font chaque matin. On part avec le jingle. Je le commence ici. Tu le termines avec ton klaxon dans ton char. C'est parti. C'est Mathieu Cyr, le gars tellement perdu qu'avant d'aller aux toilettes, il se demande, j'ai-tu mes clés? Voilà. Non, ça me demande ça. Des fois, j'ai-tu mes clés? Écoute, ce matin, ça passe ça. Bang, rapido. Ma première chanson, c'est pour les hommes précoces. C'est parti.
Ah ouais.
Merci.
C'est bon.
Aujourd'hui, je propose des courtes chansons parce que tout le monde est pressé, tu sais, parce qu'on n'a plus le temps de prendre le temps. Parce qu'avec nos existences perclues, aliénées par le travail, nous sommes devenus parfaitement inaptes à apprécier ne serait-ce que l'ombre d'un simple pétrichor. Comme dirait si bien Mathieu Bock-Côté. En se touchant sur un bécherel. En passant, pétrichor, c'est l'odeur particulière. Pour ceux qui se posent la question, le pétrichor, c'est l'odeur particulière que prend la terre après la pluie.
Oh.
J'ai fait une chanson là-dessus. On écoute ça.
On s'attache.
Voilà, ma troisième chanson. C'est sur la neige, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais présentement, à l'extérieur, c'est comme le Parti conservateur du Québec. C'est frette, puis c'est blanc. La neige a surpris plusieurs personnes cette semaine. Moi, le premier, écoute, le matin, je me lève, c'est tout blanc, fait -2. Tu sais, là, la réalité m'a rentré dedans d'une shot. Je me suis dit, OK, Matt, faut que tu commences à penser à fermer ta piscine.
Ouais, vraiment.
C'est tabarouette, ça
arrive.
Ça commence, ouais.
Ouais, ça arrive. Et ça a surpris plusieurs personnes sur la route aussi qui n'avaient pas encore leurs tires d'hiver. Et ça a été assez rock'n'roll pour eux autres. J'ai fait une toune sur les tires d'hiver. C'est parti.
Pas de pneus d'hiver, mon char devient pervers, pis il trône dans le derrière.
Ah oui!
Si t'en as pas trop, si il était sur des caries, on va se faire une orgie.
Gang bang, of course!
Voilà! J'ai un autre événement.
C'est une proposition.
C'est une proposition, ouais. C'est exactement. On va en char, on se rentre dedans, on se crache dans la face, c'est ça. Un autre événement. qui a marqué la semaine, c'est le masque. Le port du masque. Le masque qui, tel un feu sauvage, est revenu dans nos faces après une couple de mois de liberté. Mm-hmm. Le monde a recommencé à porter le masque à l'épicerie, au centre commercial, au restaurant. Bref, partout, dans tous les lieux publics, sauf les écoles. C'est normal, parce que tout le monde sait qu'au Québec, nos écoles sont les endroits les mieux ventilés. Ouais. Alors, écoute, l'école de mes enfants est tellement hermétique qu'ils vont changer de nom pour Tupperware. Regarde, dans 10 ans, mes enfants vont sortir de là avec un diplôme d'emphysème. Et j'ai fait une chanson là-dessus. J'ai fait une chanson sur le port du masque. On écoute ça. OK, Léa. Léa, le pire, c'est que j'étais à jeun. Il y en a qui se disent peut-être que j'aurais dû enlever mon masque. Mais je pouvais pas parce que j'étais à l'épicerie. Ouais, j'adore chanter entouré de légumes. Ça me donne l'impression d'être un candidat à la voix. Autre nouvelle qui m'a frappé cette semaine. L'ex-chanteuse Brigitte Bardot s'insurge contre le contrôle de la population, des serres de Longueuil. Elle appelle ça une tuerie, un massacre en pleine ville. Et pour Brigitte, j'ai fait une chanson là-dessus. On écoute ça.
On s'attache.
Sur ce, that's it, mon pit. C'est tout pour moi. Ciao, bye.
Salut.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.